L'Iran salue la déclaration de l'Union africaine qui appelle à la fin des crimes israéliens. Plus de 70 civils ont été tués dans les frappes israéliennes à Gaza. Et un navire britannique visé, un drone américain abattu par les forces armées yéménites. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. L'Iran a salué la récente déclaration publiée par l'Union africaine qui appelle à la fin des crimes du régime israélien contre le peuple palestinien dans la bande Gaza assiégée. La déclaration a été publiée samedi 17 février lors du 37e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a fermement condamné la sauvagerie israélienne et les attaques aveugles contre Gaza. Rassurez-vous, nous condamnons fermement ces attaques sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Nous voulons vous rassurer de notre solidarité avec le peuple palestinien, a dit Faki, tout en accusant Israël d'avoir exterminé les habitants de Gaza. S'exprimant dimanche 18 février, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a réitéré le soutien catégorique de l'Iran à cette déclaration. La République islamique d'Iran déclare son soutien catégorique au contenu de cette déclaration qui montre l'engagement de l'Union ainsi que des dirigeants et des nations africaines envers les idéaux humanitaires précieux concernant la Palestine, a-t-il noté. Pour Téhéran, nul doute que l'adoption permanente de telles positions de principe humaine par les États africains ainsi que par de nombreux autres pays et nations à travers le monde en soutien à la nation palestinienne opprimée resserra l'étau autour des bellicistes sionistes et de leurs acolytes. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a souligné que de telles positions ouvriront également la voie à la cessation de l'attaque israélienne contre Gaza et la Cisjordanie occupée et atténueront les souffrances du peuple palestinien. Ces commentaires interviennent au 135e jour de l'agression militaire du régime sioniste contre Gaza qui a fait jusqu'à présent près de 29 000 tués, pour la plupart des femmes et des enfants. La déclaration de l'Union africaine a été également appréciée par le mouvement de résistance palestinien Hamas. Nous espérons qu'elle se traduira par des mesures pratiques de la part de tous les pays africains amis et qui conduiront à la fin de l'agression et à la guerre génocidaire contre notre peuple palestinien dans la bande de Gaza. Nous appelons à rompre tous les liens avec l'entité criminelle sioniste et à soutenir la lutte de notre peuple palestinien jusqu'à ce qu'il obtienne ses droits nationaux légitimes, notamment la création d'un État indépendant palestinien avec Al-Quds pour capitale, a déclaré le Hamas. Plus de 70 civils palestiniens ont été tués par les attaques aveugles israéliennes dans la partie centrale de la bande de Gaza, qui est soumise depuis plus de 4 mois à une guerre génocidaire. L'agence presse officielle palestinienne Wafa a annoncé que les frappes aériennes et d'artillerie incessantes menées dimanche 18 février par l'armée israélienne sur le camp de réfugiés de Nusayrat dans le district de Zubaida et sur la ville de Deir al-Bala ont fait plus de 70 victimes. Des dizaines d'autres personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été également blessées. Ailleurs, sur le territoire côtier, 5 corps, pour la plupart des enfants, ont été retrouvés sous les décombres. Dans la ville de Gaza, le régime a attaqué les quartiers de Shujaïa, Zaytoun, Tal al-Hawa et Sheikh Ijlin. Le ministère de la Santé de Gaza a rapporté que le régime avait commis 13 massacres à travers le territoire au cours des dernières 24 heures, faisant au moins 127 morts et plus de 200 blessés. Un grand nombre de victimes sont encore ensevelies sous les décombres ou gisent le long des routes. Le deuxième plus grand hôpital de la bande de Gaza a été complètement hors service, a déclaré dimanche 18 février le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza. Dans une interview avec l'agence de presse palestine Al-Yaoum, le porte-parole du ministère de la Santé à Gaza, Ashraf Al-Rudra, a fait savoir qu'il n'y avait que 4 équipes médicales, soit 25 personnes, pour s'occuper des patients à l'hôpital Nasser dans la ville méridionale de Khan Younes. Il a poursuivi que la mise hors service de l'hôpital Nasser était une condamnation à mort pour des centaines de milliers de citoyens et de personnes déplacées dans la région de Khan Younes et de Rafah, arguant que le complexe médical est considéré comme l'épine dorsale des services de santé dans le sud de Gaza. Les soldats sionistes, dans un acte atroce et inhumain, ont détenu le personnel médical de l'hôpital Nasser de Khan Younes pendant de longues heures et ont procédé à l'interrogatoire. Ashraf al-Roudra a également fermement condamné le traitement inhumain infligé par les soldats israéliens qui ont fouillé à nu des médecins et des personnels soignants de l'hôpital Nasser. Plus encore, ajoute-t-il, le régime israélien a saisi le convoi humanitaire tout juste avant son entrée dans le complexe médical Nasser, où il ne reste que 120 patients, dont certains ont besoin des soins intensifs. Le régime sioniste a arrêté un grand nombre de personnels médicaux, de réfugiés et de patients à l'hôpital Al-Amal. Ils ont également visé les ambulances et récupéré les clés d'autres voitures afin qu'elles ne puissent pas être utilisées. Les forces armées yéménites ont confirmé qu'un navire britannique a été visé dans le golfe d'Aden et qu'un drone américain MQ-9 Reaper a été abattu à Hudaïda. Les forces navales yéménites ont mené dimanche soir une opération militaire visant le navire britannique Rubimar dans le golfe d'Aden en utilisant plusieurs missiles navals, annoncé le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sari. L'opération a causé des dommages catastrophiques au navire qui a failli couler. Le général Sari a réitéré que l'opération a été menée en soutien au peuple palestinien opprimé qui subit l'agression et le siège imposé par le régime sioniste et en réponse à l'agression américano-britannique contre le Yémen. Les forces armées yéménites ont souligné que dans le cadre de l'opération, elles avaient assuré l'évacuation en toute sécurité de l'équipage du navire, soulignant que tout le personnel était en sécurité. De même, le général Sari a confirmé que la défense aérienne yéménite a réussi à abattre un drone MQ-9 Reaper à Hudaïda. L'engin militaire d'espionnage américain effectuant des missions hostiles contre notre pays au nom de l'entité sioniste a été abattu à l'aide de roquettes appropriées, a annoncé le général Sari. La 60e conférence de Munich sur la sécurité s'est achevée dimanche 18 février après 3 jours de discussions sur les défis sécuritaires, au cours desquels les dirigeants occidentaux ont exprimé leurs inquiétudes et leur anxiété face aux risques géopolitiques. L'organisateur a souligné un risque réel que de plus en plus de pays se retrouvent dans une situation perdant-perdant. S'adressant à la conférence vendredi, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que la communauté mondiale est plus fragmentée et divisée qu'elle n'a jamais été au cours des 75 dernières années. Face aux défis régionaux, notamment la crise ukrainienne et la guerre à Gaza, les participants recherchaient une lueur d'espoir dans la situation mondiale actuelle. Un nombre croissant de représentants des pays du Sud ont été invités à cet événement ces dernières années. Ils ont exprimé leur point de vue sur la réforme d'un ordre mondial défini par l'Occident. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. S'exprimant samedi lors de la conférence Munich, le ministre irlandais des Affaires étrangères, Michael Martin, a critiqué le dysfonctionnement du Conseil de sécurité des Nations Unies, affirmant que le droit de veto des 5 États n'a pas sa place au XXIe siècle. « Le veto est un anachronisme qui doit disparaître », a-t-il dit, faisant référence aux États-Unis qui ont utilisé leur droit de veto à plusieurs reprises pour bloquer un cessez-le-feu à Gaza. Cela n'a pas sa place au XXIe siècle. Ce n'est vraiment pas le cas. Nous devons vraiment maintenir la pression là-dessus, a dit Martin. Le droit de veto permet aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, la France et la Fédération de Russie, d'opposer leur veto à toute résolution qui ne leur plaît pas. Le ministre irlandais des Affaires étrangères a qualifié les résolutions sur la situation à Gaza de faibles, déplorant qu'il y a eu plus de veto que d'action au Conseil de sécurité sur Gaza, par exemple. Pour rappel, les États-Unis se sont engagés samedi à opposer leur veto à un nouveau projet de résolution du Conseil de sécurité proposé par l'Algérie, qui appelle, elle aussi, à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le temps est écoulé. Les menaces n'empêcheront pas l'expulsion des États-Unis d'Irak après des années d'occupation. Tous les regards en Irak sont rivés sur les négociations qui ont actuellement lieu entre les responsables américains et le gouvernement de Mohammad Shia al-Soudani, visant à mettre fin à des années d'occupation militaire américaine. Le climat de ces négociations semble tendu. Une source proche des derniers développements en matière de sécurité a déclaré que la résistance irakienne avait menacé de fermer l'ambassade américaine à Bagdad, qui a longtemps été accusée d'agir comme une base militaire américaine plutôt que comme une mission diplomatique. Cela entraînerait également la fermeture de toutes les ambassades occidentales affiliées à la coalition militaire dirigée par les États-Unis si les forces d'occupation américaines rejetaient les appels populaires et croissants au retrait d'Irak. Le gouvernement irakien peut également s'attendre à des menaces de la part de Washington lors des réunions. Alors que les revenus des ventes de pétrole irakien sont versés au trésor américain dans une mesure très injuste, Washington peut menacer d'imposer des sanctions qui pourraient affaiblir le dinar irakien. Ce sinistre stratagème viserait à dégrader le niveau de vie des familles irakiennes dans le but de retourner le peuple contre son gouvernement et la résistance. Il pourrait, tour d'eux, comme Washington l'espère, être tenu responsable de tout dommage infligé à l'économie du pays, même si les États-Unis tirent les ficelles. La résistance irakienne attend du gouvernement un calendrier clair pour l'expulsion des forces américaines. Elle n'est pas disposée à se contenter de peu, comme de vagues assurances sur les dates de retrait. La manière dont la résistance réalise sa menace contre l'ambassade américaine n'est pas claire. Mais il semble que l'Amérique ait déjà décidé de se retirer du pays. La seule question est de savoir quand et comment. Les États-Unis sont bien conscients que leur présence militaire en Irak déplaît profondément aux citoyens irakiens. Cela était évident lorsque la Maison-Blanche s'est abstenue d'ordonner des frappes contre la résistance qui avait attaqué des bases américaines en Irak et en Syrie environ 200 fois depuis le début de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza, c'est-à-dire depuis le 7 octobre 2023. Mais après les récentes frappes meurtrières américaines à la frontière irako-syrienne, suivies de l'assassinat du commandant militaire irakien Abu Bakr al-Sadi à Bagdad, tout indique que rien ne reviendra à la normale pour l'armée d'occupation américaine, même si la guerre israélo-américaine contre Gaza prend fin. L'Irak se trouve à la croisée des chemins, aux prises avec l'héritage du passé, tout en luttant pour un avenir plus sûr et plus stable. Le chemin à parcourir est sans aucun doute difficile. Mais la force de la résistance reste une lueur d'espoir qui balise le terrain pour la prospérité du pays.